En immersion, un podcast des agences de l'eau.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Adrien Giraud.
Et moi, Louise Régent.
Et aujourd'hui, on vous propose une nouvelle expérience.
Un petit voyage à travers la France, à la découverte des fleuves, des rivières, des cours d'eau qui font la beauté et la richesse de notre territoire.
Et surtout qui sont indispensables à la vie. Pour nous, les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et tout ce qui compose le vivant. La sécheresse de 2022 nous a bien montré à quel point l'eau était une ressource précieuse et fragile.
Et finalement, nos rivières, nos fleuves, nos marais, on les connaît assez peu.
Voire pas du tout.
Heureusement, il y a des femmes et des hommes qui vivent, qui travaillent avec ces rivières, qui les connaissent, les protègent, qui les aiment tout simplement.
Alors on vous propose de partir à leur rencontre.
Alors prenez vos bottes, votre ciré, votre maillot de bain et c'est parti, on vous embarque avec nous.
Exploration des tourbières du Morvan.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Régent et aujourd'hui je suis au sommet du Morvan en plein milieu de la Bourgogne, à une quinzaine de kilomètres de Château-Chinon. Il fait très beau, nous sommes au début du printemps, donc les arbres sont tout verts, les fleurs commencent à sortir. Je dois rencontrer Toine du Morvan, c'est comme ça qu'il se fait appeler dans le monde de la photo. Il est donc photographe, amoureux du coin, et il va me faire découvrir un paysage caractéristique du Morvan, les tourbières. Bonjour.
Bonjour.
Louise, enchantée.
Bonjour, Toine du Morvan. Je suis un photographe naturaliste, surtout contemplatif de la nature du Morvan.
Alors, il faut mériter de venir ici, hein, parce que c'est des petites routes en montagne, on peut dire qu'on est en montagne.
C'est ça, on est dans le Morvan, c'est la plus petite montagne de France, qui fait 100 km de longueur jusqu'à 50 km de large, et en fait, on est à au maximum 901 mètres d'altitude ici. On est vraiment sur la partie sud-Morvan, qu'on appelle le Haut-Morvan. Mon activité principale, je travaille dans la protection de l'enfance. L'activité d'auteur photographe est une activité presque thérapeutique puisque ça me permet de me ressourcer face à des situations complexes et difficiles.
Alors quand on a préparé ce rendez-vous, vous m'avez dit surtout prenez des bottes. Donc les bottes, c'est l'accessoire indispensable dans le Morvan.
Ah, notamment si on se rapproche des tourbières parce que c'est vraiment une zone humide qui peut avoir ses pièges, c'est-à-dire qu'en surface, vous avez l'impression d'avoir de la mousse, et dès que vous mettez le pied dedans, vous allez vous enfoncer. D'ailleurs, je n'ai pas précisé la taille des bottes, mais il faut plutôt des grandes bottes. Certains mettent même ce qu'on appelle
des waders.
Voilà, des waders pour avoir aucun problème, parce que ça arrive des fois qu'on y laisse une botte quand on est coincé. Voilà.
Donc mes bottes sont un peu petites.
Elles risquent d'être un peu petites, mais on fera attention, on sera vigilant.
Sachant que mes bottes m'arrivent à mi-mollet.
C'est ça. J'ai grandi dans le nord du Morvan, vers Avallon. Je suis maintenant habitant du sud du Morvan, qu'on appelle le Haut-Morvan. C'est une région que j'aime depuis que je suis tout petit. J'ai toujours apprécié me promener en forêt, près des rivières, près des étangs, des lacs du Morvan. Et c'est comme ça que j'ai appris à apprécier la nature telle qu'elle était et à la découvrir au fil de mes balades, où j'ai été amené à faire de la photographie pour immortaliser toutes ces belles rencontres que je pouvais faire, que ce soit avec les fleurs, les animaux sauvages, les paysages, toujours très changeants et diversifiés dans le Morvan.
Alors du coup, là, on est au bord d'une petite rivière. Et c'est quoi comme rivière ?
Eh bien, c'est la rivière de l'Yonne qui prend sa source à quelques centaines de mètres d'ici, qui se jette après dans la Seine.
Quel rapport entre les tourbières, qui sont un petit peu l'écosystème emblématique du Morvan, et les sources de l'Yonne ?
Les tourbières, déjà, ce sont des zones semi-aquatiques, c'est entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Donc c'est un endroit où forcément il y a un apport d'eau.
D'accord, donc là, en fait la tourbière qu'on va découvrir est alimentée par la source de l'Yonne.
Tout à fait, par plusieurs sources, parce qu'on dit les sources de l'Yonne. La tourbière, en fait, sa particularité, c'est un sol qui est en permanence gorgé d'eau. L'espèce qui s'installe dans ces espaces gorgés d'eau, c'est essentiellement la sphaigne, qui est une mousse. Et la tourbière, le fait d'avoir ces sols en permanence gorgés d'eau, les micro-organismes et les bactéries, les champignons, ne vont pas faire leur travail de décomposition. Et le fait qu'elles ne fassent pas ce travail de décomposition vont voir s'accumuler toute cette matière organique qu'on va appeler la tourbe. Donc la tourbe, c'est une accumulation de végétaux, donc de tiges, de feuilles, qui sont en permanence dans l'eau.
Du coup, comme ils sont plongés dans l'eau, les bactéries ne
font pas leur travail.
Ou les autres micro-organismes ne peuvent pas faire leur travail, voilà, de les décomposer.
Ne dégradent pas la matière organique, tout à fait.
En fait, c'est des végétaux momifiés presque.
En quelque sorte, oui, c'est ça. Et c'est l'intérêt de la tourbière, c'est qu'elle va archiver énormément de choses, puisqu'elle va pouvoir protéger finalement donc de cette dégradation des pollens, des spores de champignons, donc des pollens des plantes qui vont vivre tout autour, que ce soit des fleurs, des arbres. Et ça va nous permettre de dater jusqu'à pratiquement 12 000 ans la géographie et du moins la végétation qui existait pendant ces milliers d'années en fait. Voilà. Donc c'est vraiment une archive importante, et quand on fait une carotte, c'est-à-dire quand on essaie de prélever toute une épaisseur de tourbe et que les scientifiques analysent, eh bien ils vont analyser les pollens, ils vont analyser les spores et ils vont permettre de dater différentes périodes de ces espaces naturels où à une époque il y avait tel type d'arbre, tel type de flore ou tel type aussi de céréales, puisque les hommes vivaient à proximité et pouvaient faire pousser certains céréales. Voilà. Les tourbières, historiquement, on les utilisait notamment en prélevant la tourbe qui servait de combustible pour chauffer dans les chaumières. Aujourd'hui, il y a d'énormes exploitations de tourbe, notamment pour fabriquer ce qu'on appelle le terreau qu'on utilise dans les jardineries ou dans nos jardins pour faire des semis, voilà.
Donc là, on marche sur un chemin un peu surélevé par rapport à ce qu'il y a en contrebas, qui sont du coup les tourbières.
Alors en fait, on est sur la digue et on avait un étang à ma gauche et un étang à ma droite. Donc à ma gauche, l'étang est asséché en quelque sorte. Il a été remplacé par une tourbière boisée, c'est-à-dire que le sol est en permanence humide. On a encore une petite rivière qui coule au milieu. Bah, c'est une partie de l'Yonne qui passe ici. Et la forêt a poussé dedans. La première partie de la tourbière des sources de l'Yonne commence ici, avec cette tourbière boisée.
En quoi les tourbières, ça vous intéresse particulièrement en tant que naturaliste ?
C'est à cet endroit-là que l'eau va être préservée, va être maintenue et va après alimenter les rivières qui vont s'écouler du Morvan. Vous allez avoir un sol en permanence inondé et seulement quelques petites espèces rares arrivent à y habiter, à s'y reproduire. Je pense notamment à une libellule qui s'appelle la Somatochlora artica. C'est une libellule rare qu'on voit uniquement dans les tourbières. On peut voir aussi un petit lézard qu'on appelle le lézard vivipare et puis des fleurs, notamment le Drosera à feuilles rondes, qui est une fleur carnivore et qui pousse sur les sphaignes, qui est le végétal le principal qui constitue les tourbières.
J'ai vu des petites fraises sauvages.
Oui, bah, tout à fait, il y en a. Ça fait partie de la famille des Asteracées. Puis là, on a la petite fleur du moment. C'est donc une petite fleur que j'aime beaucoup. C'est la cardamine des prés. Et déjà, elle a une petite couleur mauve clair qui est très, très jolie. Elle est vraiment associée aux zones humides. Elle pousse vraiment dans les prairies humides. Donc quand on en voit, c'est que l'eau est vraiment pas loin. Et je l'aime beaucoup, notamment parce que ça fait partie de la famille des crucifères, donc des moutardes, des radis, des choux, tout ça. Voilà, c'est de la même famille. Donc on peut la manger. Alors moi, je la mange pas. Par contre, j'adore l'observer parce qu'à proximité, on a un petit papillon qu'on appelle l'aurore. C'est un des premiers papillons du printemps avec notamment le citron. Un petit papillon tout vert, fluo.
Pourquoi vous vous êtes tourné vers la photo particulièrement ?
J'avais envie d'immortaliser ces belles lumières matinales ou ces couchers de soleil et puis de mettre en valeur tout ce qui m'attirait en quelque sorte, que ce soit la forêt, la couleur du ciel, la flore, la faune. Et puis c'est une façon de partager tout ce que j'apprécie, rencontrer régulièrement. Et puis ça permet de valoriser aussi toutes les merveilles qu'on peut trouver dans cette petite montagne du Morvan. Ça, c'est un rouge-queue à front blanc. C'est un oiseau aussi migrateur, qui est pas très commun, mais on entend, ça fait ti 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 ti. Ça a permis d'archiver la photographie, les paysages et les rencontres qu'on peut faire. Et on compare et on voit l'évolution de certaines zones qui sont de plus en plus emboisées, par exemple, ou l'évolution des végétaux, des animaux qui étaient présents, qui sont plus présents, d'autres qui apparaissent. Et à travers les photos, on peut constater effectivement des saisons qui peuvent se décaler de 15 jours, d'une semaine. Ça, c'est le côté d'archives intéressantes. J'essaye de plutôt photographier ce qui m'émerveille, mais bon, à travers ces photos, on peut focaliser aussi sur ce changement climatique qui est vraiment visuel. Voilà.
Alors là, on sort d'un endroit extrêmement boisé.
Oui.
Et c'est quoi ces arbres d'ailleurs ?
C'est essentiellement des bouleaux. Hein.
Et alors, on sort de cette zone arborée, oui, pour arriver dans un espace totalement dénué d'arbres. On dirait une grande plaine, on dirait presque du sable de loin, puisque ce sont des herbes sèches, en fait, presque des petits monticules. Et c'est ça, la tourbière ?
C'est ça. Là, vous êtes vraiment dans la tourbière. Et la tourbière, elle a cette particularité, effectivement, elle a ses petites bosses, elle a ses gouilles, c'est-à-dire que vous avez des petites mares, voilà, au pied de ces petites bosses, où si vous y mettez la botte, vous la laissez.
Vous êtes un peu, quelque part, un lanceur d'alerte, en fait.
J'essaie de faire passer des messages, effectivement. Et puis, petit à petit, malgré moi, c'est vrai que je me rends compte que je peux devenir militant parce que je suis attaché à une forêt, à un espace naturel, et que je souhaite, malgré les changements climatiques, préserver. Il m'est arrivé d'avoir des coins un peu secrets où j'aimais aller photographier des forêts avec un chemin au milieu. Et puis, du jour au lendemain, en raison aussi de l'exploitation forestière, qui est aussi une conséquence du changement de gestion de la forêt et donc du changement climatique, ce paysage avait disparu. Et du coup, ça me permet aussi de sensibiliser en disant, voilà, là, il y avait une belle forêt, maintenant, elle n'existe plus. Donc, on peut marcher, si vous voulez, un peu sur le bord, sur les sphaignes, si vous voulez vous rendre compte de l'effet radeau.
Ouais, alors moi j'ai une seule paire de chaussettes et c'est même pas ma paire, c'est même pas mes
c'est
bottes.
C'est pas la vôtre.
Et c'est même pas mes bottes, donc il faut pas que je perde ma botte.
L'intérêt des tourbières, c'est que par la création de cette tourbe, on accumule du CO2, donc elle prélève le carbone du CO2 dans l'air et l'emmagasine dans le sol, et finalement, c'est son travail principal. Si elle commence à s'assécher, effectivement, elle va relâcher ce carbone.
Donc c'est un peu un cercle vicieux, parce que le réchauffement climatique a tendance à détruire les tourbières, mais en détruisant ces tourbières, finalement, on accélère le réchauffement climatique, enfin on risque de l'accélérer.
Exactement.
Quelles sont les solutions envisagées pour préserver les tourbières ?
Alors, pour préserver les tourbières, bien sûr, il faut s'assurer qu'en amont, la source fonctionne toujours, ne pas essayer de canaliser l'eau, s'assurer aussi que toutes les zones en amont ne sont pas dégradées, en fait, et qui permettent toujours l'alimentation de la tourbière en eau.
Bon, alors, c'est parti. Découverte de la tourbière.
Voilà, donc là vous allez avoir déjà des sphaignes, et dès qu'on met les pieds sur la tourbière qui paraît toute sèche, et bien on entend. Voilà, il y a de l'eau.
Ouais, effectivement, ça fait splutch, splutch.
D'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous vous projetez encore à vous promener au milieu de ces tourbières?
Oui, dans tous les cas, je serai toujours, je l'espère, encore un habitant du coin. C'est un endroit auquel je suis attaché, puisque je le vois évoluer, en quelque sorte, je l'observe tous les jours. Je regarderai cette évolution toujours avec le même œil de curiosité et de contemplation.
C'est comme si on marchait sur une éponge un peu, hein.
Alors là, on n'est pas au cœur de la tourbière, mais si on se rapprochait un peu du centre, là, vous auriez vraiment l'impression de marcher sur un radeau d'eau. Vraiment un radeau avec de l'eau en dessous. Et là, par contre, il faudrait vraiment être très méfiant de ne pas s'enfoncer. Quand on est passionné, tout est possible, en fait. Quand on est toujours émerveillé, eh bien, il y a toujours du potentiel pour découvrir de nouvelles choses et apprendre encore de nouvelles choses.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi dans ma balade dans les tourbières du Morvan. Je vous dis à très bientôt pour découvrir un autre lieu exceptionnel ailleurs en France.
Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un nouveau cours d'eau. Et pour en savoir plus sur nos rivières et les actions menées au quotidien pour les préserver, rendez-vous sur le site lesagencesdelau.fr et sur les réseaux sociaux des agences de l'eau.